France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Il a fallu attendre 24 heures pour connaître les résultats du caucus démocrate dans l'Iowa aux États-Unis. Et finalement, c'est Pete Buttigieg qui s'impose selon des résultats encore partiels ce matin. L'ancien maire d'une ville moyenne de l'Indiana a obtenu quasiment 27% des délégués. Vient ensuite le sénateur du Vermont Bernie Sanders à 25%. Des résultats diffusés avec beaucoup de retard. Les observateurs outre-Atlantique parlent même de fiasco, ce qui arrange bien Donald Trump, le président américain conservateur, prononçait cette nuit son discours sur l'état de l'Union, vantant ses promesses tenues et une économie rugissante, selon ses mots. Devant le Congrès au grand complet, il n'a pas dit un mot toutefois de son procès en destitution, alors qu'il devrait être acquitté demain par le Sénat. 490 morts à cause du coronavirus en Chine, voici le nouveau bilan dressé hier soir par les autorités. Elles font aussi état d'une hausse des contaminations avec 24 300 cas détectés en Chine. Au Japon, par ailleurs, 10 cas viennent d'être confirmés sur un bateau de croisière qui est mis en quarantaine. Il est temps de donner de la voix. C'est par ces mots que 54 athlètes olympiques français signent une tribune contre les violences sexuelles dans le sport. Ils réagissent en fait aux accusations de violences sexuelles dans le patinage artistique. Nous nous sentons aussi responsables, estime-t-il. Parmi les signataires, il y a notamment le judoka Teddy Riner et la joueuse de tennis Tatiana Golovin. Dans le même temps, notons que le président de la Fédération des sports de glace, Didier Gayaguet, ne souhaite pas démissionner. Et cela avant la fin de l'inspection qui est menée par le ministère des Sports. 15 jours après une première rencontre, Édouard Philippe a reçu hier les avocats une deuxième fois. Le Premier ministre s'est notamment engagé à augmenter de 13% la pension de retraite des avocats aux revenus les plus limités. Des propositions doivent être formalisées d'ici demain jeudi. Jusque-là, la grève continue. Voilà ce qu'indique le Conseil national des barreaux.
Tous les jours à midi, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table.
Connu pour ses portraits d'hommes d'État et ses documentaires historiques, de mai 68 au mur de Berlin, Patrick Rothman s'empare cette fois de la mémoire oubliée des goulags dans une première histoire totale et globale diffusée très bientôt sur Arte. Tandis que le romancier Yegor Gran nous raconte l'histoire particulière d'un père pris dans les tourments de la Russie post-Staline.
La grande table ce mercredi à midi est sur franceculture.fr.
France Culture présente la troisième édition du festival littéraire Jardin d'hiver aux Champs Libres à Rennes. Durant trois jours, les Champs Libres se métamorphosent en jardin d'hiver où fleurissent des propositions inédites pour savourer la littérature. Concerts littéraires, créations d'étudiants, lectures publiques. Parmi les nombreux auteurs invités, retrouvez notamment Olivier Adam, Jeanne Benhamer, Nina Bouraoui et Alain Damasio. Jardin d'hiver du 7 au 9 février aux Champs Libres à Rennes. Un partenariat France Culture.
Et à 6h03 sur France Culture, il est l'heure de retrouver Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Et tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus beaux films de tous les temps, Otto e Mezzo, réalisé par un certain Federico Fellini en 1962. L'année d'après, en 1963, le film sort en France sous le titre 8 et demi. Mon invité ce matin, l'universitaire Marco Caramelli, transforme le chef-d'œuvre biographique de Fellini en un roman passionnant. Un beau désordre. Tel est le titre de ce livre, édité par Robert Laffont. On en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous réveiller avec le réveil culturel, si vous nous écoutez à la radio. Merci à tous les autres qui nous sont fidèles autrement, c'est-à-dire qui nous écoutent en différé ou en podcast. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et Olivier Dupré qui nous accompagne ce matin à la prise du son du studio 351.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Marco Caramelli.
Bonjour.
Comment on se sent quand on sort de ce livre, quand on a été dans la peau de Federico Fellini, qui plus est dans une des périodes les plus importantes de sa vie?
Eh bien, très bien, puisque en fait, je me suis glissé et dans la peau de Federico Fellini et dans la peau de Marcello Mastroianni et dans la peau de Guido Anselmi, qui est donc le personnage de 8 et demi que j'ai appelé Massimo Barbiani dans mon roman
documenté, avons... même si ça reste une fiction. Très documenté, alors, d'ailleurs.
Très documenté, oui.
En depuis fait, le titre, hein, on peut partir du titre. Un beau désordre, c'est le titre que devait avoir ce film.
La belle la confusione, qui, en fait, pourrait se traduire, devrait se traduire plutôt en français par la belle confusion, car le terme italien confusione a plusieurs sens en français. Ça peut être donc le désordre, mais aussi la confusion au sens de confusion mentale. Et donc, c'est vrai que...
Alors, en l'occurrence, ça marche pour les deux sens, hein, dans ce livre.
C'est ça. Ouais. Évidemment, le personnage principal est aux prises avec une confusion générale. Et c'est vrai qu'en français, on a préféré désordre, un beau désordre. Esthétiquement, ça nous paraissait meilleur que une belle confusion. C'était moins joli comme titre. Donc,
ouais. Alors, avant de parler de votre roman, qui est votre premier roman, Marco Caramelli, parlons de votre rapport avec ce film. Je suppose que vous n'étiez pas né à l'époque de la sortie de ce film.
Oui, je n'étais pas du tout né, car l'information, je ne sais pas si elle vous a échappé, mais j'ai le même âge que le personnage du film et du roman, donc 43 ans. Et donc oui, j'ai découvert bien plus tard le cinéma de Fellini. Et je l'ai connu, je l'ai découvert avec tout le grand cinéma italien, donc un peu plutôt sur autour de 25-30 ans.
Mmh. Plutôt à la télévision qu'au cinéma, je suppose.
Oui, alors en fait, j'avais entendu depuis toujours l'existence de Fellini, mais je m'y suis intéressé un peu plus tard. Et plutôt en achetant des DVD.
Ok.
Donc j'ai découvert tous les grands cinéastes italiens dans cette époque. Et parmi ceux de Fellini, ce film-là a tout de suite eu sur moi un impact particulier.
Pourquoi justement Marco Caramelli?
Pour différentes raisons. Il y a déjà l'histoire qui me touche particulièrement, et à la différence des autres films, les personnages, je m'identifie énormément au personnage de Guido, ce qui par exemple n'est pas du tout le cas du personnage de Marcello dans La Dolce Vita. Et j'ai un attachement particulier au personnage de Louise, à la femme du personnage principal. Il y a Claudia Cardinale, qui est évidemment mon actrice préférée depuis toujours. Mais encore une fois, ce personnage particulier dans ce film me touche particulièrement. Et puis il y a ce rapport aux femmes, puisque c'est un film qui parle et du rapport d'un homme avec sa femme, et puis avec sa maîtresse, et puis avec...
Comment résumeriez-vous le 8 et demi Marco Caramelli?
Alors, le film démarre avec un réalisateur qui est, disons, connu, parce qu'il est touché par un stress très particulier, il fait un malaise et on lui prescrit une cure thermale. Donc, il se retrouve à cette cure thermale, mais comme il a signé un contrat avec un producteur pour un nouveau film et que la production a déjà démarré, le producteur dit bon, on peut pas prendre du retard sur le programme, donc il amène toute la production à l'hôtel où loge le réalisateur pour se reposer. Et très vite, eh bien, il ne pourra pas se reposer, puisque il fait venir sa maîtresse, et puis il fait venir sa femme, et puis la femme dont il est amoureux, il la fait venir aussi parce qu'il lui propose un rôle. Et donc, on se retrouve avec ces deux éléments importants du film, qui sont le rapport du personnage principal avec les femmes, la construction d'un film, puisque évidemment on voit les coulisses de la fabrication d'un film avec...
C'est une réflexion aussi sur la panne d'inspiration aussi.
Oui, puisque effectivement c'était le malaise est venu du fait que ce réalisateur donc a signé un contrat comme il a eu pas mal de succès avec le film précédent, on imagine que le producteur lui a signé l'avance sans trop demander une garantie. Et donc là, ce réalisateur se retrouve avec une panne d'inspiration alors que le film doit se faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'inspiration va revenir? Est-ce qu'on laisse tout tomber? Etc., etc.
Un beau désordre, vous mélangez l'histoire de ce film avec l'histoire du film.
Alors, voilà, j'ai réalisé deux travaux en fait d'adaptation, puisque la première chose que j'ai réalisée, donc c'est une adaptation du film au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'auteur. Je ne me suis pas contenté, comme c'est le cas pour ce qu'on appelle les novélisations, je ne me suis pas contenté de prendre scène par scène et de décrire les scènes. Non, j'ai vraiment... Il y a des scènes que j'ai construites à 100% qui ne sont pas dans le film. Il y a d'autres scènes du film que j'ai supprimées. Et j'ai aussi ajouté ce que l'on peut faire en littérature et que l'on ne peut pas faire en cinéma, qui est par exemple les pensées des personnages. Donc, par rapport à une scène, j'ai imaginé ce que les personnages pouvaient penser. Donc ça, c'est le premier travail que j'ai fait, d'adaptation. Et puis, il y a un autre travail que je trouvais intéressant, c'est que comme 8,5 est considéré... Fellini a toujours nié le côté autobiographique du film. Il semble évident quand on connaît l'histoire du réalisateur. Donc, c'est un film autobiographique auquel j'ai ajouté d'autres éléments autobiographiques. D'où le fait que j'ai dû me documenter énormément. Alors, c'est vrai que je l'avais fait depuis des années, puisque à chaque fois que j'aime un écrivain ou un réalisateur, j'ai tendance à me documenter largement. Je lis toutes les interviews, je regarde les vidéos. S'il y a des documentaires, je les regarde. Donc, je connaissais déjà sa vie. Et peut-être le fait de la connaître, ça m'a donné cette idée d'intégrer, de mélanger en fait des éléments de sa biographie aux éléments de la biographie, mais qui ont été insérés par Fellini lui-même.
C'est-à-dire fictionné par Fellini lui-même, puisque jusqu'au bout, il refusera de dire que c'est un film autobiographique.
C'est ça.
Un extrait de 8,5.
Je suis là. Voulez-vous que nous parlions du film?
Oui, bien sûr.
Bon, vous me direz ensuite si vous jugez que je dois montrer mes notes à votre producteur. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus entre nous.
Non, 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 c'est moi qui ai demandé qu'on vous consulte.
Eh bien, une première lecture, c'est très confus. L'absence d'un thème majeur, ou si vous préférez, d'un argument philosophique...
Vous ne voulez pas vous asseoir?
...fait du film une suite d'épisodes absolument gratuits. Qui ne manque d'ailleurs pas d'être divertissant dans le cadre de leur réalisme ambigu. Mais on se demande ce qu'ont voulu dire les auteurs. Veulent-ils nous obliger à penser? Veulent-ils nous faire peur? La composition du début à la fin manque d'envolée poétique. Excusez ma brutalité, mais si la démonstration était encore à faire, cela prouverait que le cinéma est en retard de 50 ans sur les autres arts.
Voilà. Un extrait du film de Fellini, un des classiques de Fellini, 8,5. Généralement, quand on lit un livre qui nous plaît, on a tout de suite ce réflexe de dire « mais quel beau film il fera !» Et généralement, les bons romans se transforment en films, bon ou mauvais, ça c'est un autre débat. Là, ce que vous fait mon invité ce matin, Marco Caramelli, c'est exactement le contraire. Il est parti d'un film, c'est un film qui lui a inspiré un roman. Alors, ce roman, Un beau désordre, édité chez Robert Laffont, a une vraie partie documentaire, hein, parce que il y a quelques informations qui sont vraiment réelles, il y a des anecdotes qu'on connaît, on pourra pas faire d'ailleurs, on peut pas tracer une frontière entre ce qui s'est réellement passé, ce que Fellini a bien voulu dire autour de son film et ce que vous inventez en tant qu'écrivain, Marco Caramelli.
Oui, c'était un vrai challenge en réalité, puisque c'est à partir des premières personnes qui ont lu le manuscrit, mon éditrice, l'attaché de presse et puis d'autres personnes, que je me suis rendu compte qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à faire la différence. Donc pour moi, c'est une grande réussite.
Comment ils ont réagi déjà au projet, à la première page, hein, parce que je rappelle que dès le prologue, vous dites « je suis Fellini », à votre manière, bien sûr. Mais dès la première page, vous êtes dans la peau de Federico Fellini.
Oui, c'était important pour moi de choisir la première personne. Mm-hmm. Parce que je pense que ça rend toute la lecture beaucoup plus vivante. On se plonge vraiment dans la peau du personnage. Et justement, parce que c'est un personnage, le réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié, il y a aussi, dont je disais, je le connaissais déjà depuis des années, mais pour la préparation de ce livre, j'ai fait un travail documentaire très important. Donc vraiment, je me sentais prêt à pouvoir
me mettre son rôle
complètement, oui, et ouais. Pouvoir réfléchir ce qu'il aurait pensé. Alors c'est vraiment un double jeu puisque je me suis mis dans la peau plus précisément du personnage de Guido Anselmi. Mmh.
Donc le double fictionnel de Fellini.
C'est ça. Donc il y a un double jeu de miroir qui fait que il a fallu que je m'imprègne du personnage du film, puisque le film je l'ai vu aussi peut-être plus de 10 fois, du réalisateur Fellini, et j'ai mélangé tout ça. J'ai mis des choses personnelles également pour créer un nouveau personnage qui est un mélange de tous ces personnages-là.
Et ça donne un roman, un beau roman, une adaptation littéraire d'un des plus grands films de Federico Fellini. Mais dites-moi, Marco Caramelli, tous ces thèmes véhiculés par ce film, c'est-à-dire questionnements sentimentaux, rapport aux femmes, dilemmes créatifs, est-ce qu'ils ne sont pas datés? Est-ce qu'ils ne sont pas très années 60? Comment vous êtes senti impliqué dans ce genre de questionnement de Fellini?
Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que
qu'il soit
les
daté.
Questionnements sentimentaux. Je crois que la relation des hommes avec les femmes, ou plus généralement les relations de couple, les problématiques d'un couple qui perd pied, l'intervention d'une maîtresse, etc. Je pense que à peu près 90% de la population française et mondiale est concernée aujourd'hui, au jour que je vous parle, par ces questions-là.
De la même manière qu'en Italie dans les années 60, au début des années 60.
Oui. Honnêtement, je vois pas dans les questionnements un homme, les rapports, est-ce qu'il aime toujours sa femme, il l'aime, il ne sait plus comment il aime, la maîtresse, elle est là, qu'est-ce qu'elle lui apporte, qu'est-ce qu'elle ne lui apporte pas, et une troisième femme qui le fascine. Honnêtement, je vois pas du tout en quoi ces questionnements-là aient pu changer. Je pense que c'est totalement universel. Et c'est la même chose pour les questionnements qui concernent la création artistique. Tout artiste, il y a 50, 10 ou... Et dans 30 ans, auront exactement les mêmes...
Y compris le rôle que peut avoir un réalisateur aujourd'hui auprès de son équipe. Parce que ce qui est très drôle dans Un beau désordre, Marco Caramelli, vous montrez comment tous les gens vont voir le réalisateur, c'est-à-dire Fellini, c'est-à-dire le Fellini du film 8,5, c'est-à-dire vous-même adaptant 8,5 en roman. Tous ces gens-là qui vont le voir, ils vont le voir avec vénération, c'est Dieu. Mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'un réalisateur a le même statut ?
J'imagine qu'il y a des cas de figure très différents. Sur ce point-là, je suis d'accord avec ce que vous sous-entendez. C'est vraiment la présentation de comment Fellini travaillait, comment se passait un tournage de ses films, comment se passait la préparation de ses films. Donc là, sur la description de la partie fabrication d'un film, là, on peut. L'intérêt n'était pas de généraliser. C'est pas du tout. Ce sont pas des éléments universels. Là, c'est plus pour montrer comment un des génies, un des réalisateurs les plus importants depuis 70 ans travaillait. Voilà. Donc ça, je dirais que sur ce point-là, on n'est pas dans quelque chose de généralisable. Voilà.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Nous sommes avec Marco Caramelli ce matin, qui publie Un beau désordre, qui revient donc sur le tournage du film 8,5, le chef-d'œuvre de Federico Fellini, d'ailleurs qui est considéré comme un des plus beaux films de tous les temps. Marco Caramelli, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des petits Fellini dans l'Italie d'aujourd'hui? Ou des réalisateurs qui peuvent devenir Fellini, ou qui peuvent avoir la place qu'a eu Fellini dans les années 50, 60, 70? Pourquoi certainement que non?
Alors moi je fais partie des personnes qui sont un peu nostalgiques de la...
D'une période qu'ils n'ont pas connue. Aussi un peu, ouais.
Mais c'est vrai que quand on voit, serait-ce que des documentaires ou des films de cette époque-là, les vêtements étaient plus beaux, l'architecture était plus belle, les automobiles étaient... Enfin, il y avait une beauté généralisée. L'art, à cette époque-là, a eu un foisonnement dans tous les domaines qui me semble difficile de retrouver aujourd'hui un tel foisonnement. Mais c'est la même chose pour le rock, pour vraiment tous les...
C'est un nostalgique, quoi.
Totalement. Mais pour répondre à votre question, le réalisateur italien que l'on a un petit peu... rapproché de Fellini, et qui d'ailleurs a rendu hommage à Fellini quand il a reçu son Oscar du meilleur film, c'est Paolo Sorrentino, surtout dans le film La Grande Bellezza, qui a reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Il y avait énormément de clins d'œil au travail de Fellini. Aussi d'un Youth qu'il a réalisé quelques années après. On retrouve une station thermale, donc il y a des, il y a des petits clins d'œil.
Même si c'est un film américain, son film américain.
Oui. Ouais. Mais voilà, c'est le réalisateur qui est considéré un peu comme le fils spirituel de Fellini en Italie.
Alors pardonnez-moi de vous poser encore une autre question pour spécialiste, spécialiste du cinéma italien. Vous savez pourquoi le cinéma italien traverse une telle crise très longue, c'est-à-dire depuis les années 80, depuis la fin de la comédie à l'italienne, mis à part quelques exceptions, on n'est plus autant emballé par le cinéma italien. Comment vous expliquez cette crise?
Alors, je dirais qu'il y a eu effectivement un gros vide, on va dire années 80-90. Dans ce vide-là, émergeait comme exception Nanni Moretti.
Bien sûr, ouais.
Et depuis les années 2000, quand même, il y a... alors, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, donc je vous reporte ce que j'ai pu lire au sujet du cinéma italien, mais il y a quand même un retour avec Matteo Garrone et des gens comme ça, Paolo Sorrentino. On considère quand même depuis une bonne dizaine d'années, le cinéma italien est revenu à un niveau...
Vous allez les voir, ces nouveaux films?
Quelques-uns. Je suis oui, assez souvent les meilleurs. Je me documente sur chaque fois qu'un film, on en parle pour sa qualité. J'essaye d'aller les voir. Oui.
On entend dans votre voix que vous êtes d'origine italienne, Marco Caramelli, et même votre nom. Vous venez d'où?
La région de Naples, et plus précisément une ville qui s'appelle Montesarchio, qui est à une cinquantaine de kilomètres à l'intérieur des terres par rapport à Naples.
Alors comment est née votre cinéphilie?
Je peux identifier un moment particulier. Je dirais que c'est une jeune femme que j'ai connue quand j'avais à peu près 27-28 ans, qui était ma petite amie de l'époque, qui était d'ailleurs marocaine. Et donc, en me connaissant, elle a dit « Ah, tu es italien, tu dois connaître le grand cinéma italien. » Et moi, j'étais très gêné parce que c'était pas du tout le cas. « Ah, mais comment ça, Rossellini, Antonio, etc. » Elle a dit « Ah, mais il faut que je te fasse connaître. » Elle avait toute une collection de ces grands films chez elle. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque fois que nous voyions... il y avait moi je lui préparais un dîner italien, et après le dîner
elle vous préparait un film italien.
C'est ça. Et donc c'est comme ça, c'est grâce à une jeune femme que j'ai découvert tous les grands cinéastes de cette époque-là.
Vous êtes plus passionné par le cinéma que par la littérature, ou ça marche ensemble pour vous, Marco Caramelli? C'est la question que je vous pose à l'occasion de la sortie de votre premier roman, donc Un beau désordre.
Je lis plus que ce que je regarde de films, ce qui est peut-être assez... je ne suis pas un glouton de films comme certains qui regardent des films en grande quantité. Moi, je dis souvent que je ne suis pas un bon public. C'est-à-dire, je préfère regarder peu de choses de qualité. Même les romans, je ne dévore pas les romans. D'ailleurs, c'est un terme que je trouve absolument obscène.
Dévorer
des romans. Enfin, j'ai pas pour moi. On dévore, une carcasse, mais pas du tout quelque chose de bon. On dirait pas. Je suis allé dans un très bon restaurant et j'ai dévoré les plats qu'on m'a. Enfin, je trouve que le terme est très mal. Choisi, je n'aimerais pas qu'on me dise j'ai dévoré ton roman, je préférais qu'on me dise j'ai dégusté, j'ai savouré, mais dévoré, je trouve que c'est totalement péjoratif. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui dévore les choses, je préfère lire que regarder des films, parce que j'ai l'impression que ça me nourrit davantage en fait. Regarder des films, j'ai pas l'impression d'apprendre grand-chose, alors que quand je lis, j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses. Ça m'intéresse davantage.
Et comment le napolitain est arrivé en France et à Paris ?
Là, il faudrait une émission de radio spéciale pour raconter cette histoire qui est très longue. Mais disons, pour résumer...
Le quick résumé radio.
Voilà, c'est mon père qui était venu vivre en France et donc... par une histoire un peu complexe, je me suis retrouvé à le suivre à l'âge de 10 ans environ.
Et s'il fallait parler, pour terminer, rendre un dernier hommage à Fellini, mis à part 8,5, mais aussi la Dolce Vita, il est aussi question de Dolce Vita dans votre roman Un beau désordre.
Oui, alors parmi les petits jeux que j'ai réalisés en écrivant ce roman, j'ai inséré une scène de la Dolce Vita, et pas n'importe laquelle. Alors je ne sais pas si je peux révéler ce petit détail, mais en fait, il y a un moment donné dans 8,5, pour ceux qui l'ont vu, c'est tout au début du film, le personnage principal arrive à la source et puis il vient chercher son eau bénite, ce qu'on appelle en italien l'acqua santa, j'ai traduit par eau bénite, et il a une apparition, donc il a Claudia Cardinale qui lui apparaît comme un mirage. Et pendant que j'écrivais, je me suis dit, tiens, il faudrait que je raconte comment ils se sont connus. Et j'ai eu cette idée intéressante d'utiliser une scène de la Dolce Vita pour illustrer la manière dont... le protagoniste aurait rencontré... Du coup, j'ai créé une petite histoire qui s'ajoute à l'histoire du film et de la réalité.
Vous retournez souvent en Italie ?
J'y retournais régulièrement tant que ma mère y vivait, ce qui n'est plus le cas depuis qu'elle a pris sa retraite et qu'elle a souhaité venir se rapprocher de ses enfants en France. Donc avant, j'y allais, j'allais la voir tous les Noëls et tous les étés.
En faisant un pèlerinage dans les lieux marqués par le cinéma de Fellini ou le cinéma italien, vous êtes du genre à passer par la fontaine de Trévise, par exemple, quand vous êtes à Rome, ou pas forcément?
Non,
vous évitez les coins touristiques?
Ouais, je ne suis pas particulièrement fétichiste. Non, c'est pas quelque chose que... Mais effectivement, en passant... la prochaine fois que j'y passerai, j'en ai parlé dans ce roman, effectivement, j'aurai un double pincement de cœur en passant devant la fontaine de Trévise.
Alors, ce livre, vous l'avez écrit en français, c'est bon de le dire?
Tout à fait.
Bon.
Bien sûr, bien sûr.
Il est sorti en Italie? Il n'y a pas un éditeur italien qui est intéressé par votre livre?
Ils ne savent pas qu'il existe, donc
pas encore.
Quand il sortira, peut-être que s'il a du succès, un éditeur italien, et puis peut-être des éditeurs d'autres pays s'intéresseront à ce roman.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est disponible pour le podcast sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France.
Marco Caramelli, Un beau désordre, c'est édité chez Robert Laffont. Merci d'être passé ce matin nous en parler.
Merci à vous de m'avoir invité.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Notre-Dame du Nil, un film d'Atik Raimi, Rwanda. 1973. Dans le prestigieux institut catholique Notre-Dame du Nil, des jeunes filles étudient pour devenir l'élite du pays. Elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d'adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l'école, grondent des antagonismes profonds qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays. Notre-Dame du Nil, aujourd'hui au cinéma. Un film France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Les avocats poursuivent leur grève, au moins jusqu'à demain, date limite qu'ils donnent au gouvernement pour finaliser des propositions. Les avocats qui craignent toujours que la réforme des retraites ne baisse leurs pensions. Les écoles d'architecture sont aussi en grève en ce moment. Là, le personnel critique le manque de moyens, vous l'entendrez. Et puis dans ce journal, nous irons à Madrid, en Espagne, où les agriculteurs et les éleveurs se mobilisent pour que leurs conditions de travail s'améliorent. Ils ont plaidé leur cause pendant 2 heures. Les représentants d'avocats étaient reçus hier soir à Matignon. Une réunion avec le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Justice Nicole Belloubet pour trouver un accord après 1 mois de grève. Les avocats protestent contre les changements que va induire la réforme des retraites, la fin de leur régime autonome et la baisse de leurs pensions. À l'issue du rendez-vous hier soir, il n'y a pas eu d'accord annoncé, mais une promesse, celle de faire des propositions d'ici demain jeudi. Christiane Ferralschul est la présidente du Conseil national des barreaux. Elle prévient le gouvernement.
Nous espérons des propositions qui seront à la hauteur de la crise actuelle. Ces propositions seront partagées avec les élus du Conseil national des barreaux, partagées à l'occasion de l'Assemblée générale qui se tiendra vendredi soir. C'est historique et inédit, vous avez 100% du barreau de France qui est en grève. Cela ne s'était strictement jamais vu. Ensuite, tout dépendra des propositions. Mais nous pensons avoir été entendu, en tous les cas, nous l'espérons très fortement.
Et pendant ce temps, chaque barreau vote indépendamment de poursuivre ou non la grève. Le barreau de Paris, ainsi, a décidé hier de continuer le mouvement. Eux aussi sont en grève, non pas pour défendre leur retraite, mais pour défendre leur travail au quotidien. Professeurs, personnels et étudiants d'École nationale d'architecture ont crié hier leur colère sous les fenêtres du ministère de la Culture. Ils étaient une 50aine, représentant la 20aine d'écoles publiques en grève depuis le début de la semaine. Tous se disent victimes de négligence et d'abandon de la part du ministère, Céline Autain.
Le mal-être commence tout simplement par certains locaux exigus dans des bâtiments qui, selon les enseignants, ne devraient plus ouvrir et par des dossiers sur la dégradation des écoles bloqués depuis des semaines au ministère de la Culture. Une situation matérielle qui s'ajoute à une surcharge de travail depuis la réforme des écoles d'architecture de 2018. Alessia Debiaz, enseignante à l'ENSA Paris-Lavillette.
La première année des mises en œuvre, nous étions tous enthousiastes parce que voilà, pour la première fois, on est autonome, on gère nos concours, etc. Mais en réalité, on s'est retrouvé face à une fausse autonomie. On se rend compte que le ministère s'est défait de toute une série de dossiers qui sont lourds à gérer en nous les redonnant sans aucune ressource humaine en plus.
La réforme acte également une nouvelle cotutelle pour les écoles d'architecture, celle du ministère de la Culture et celle de l'enseignement supérieur qui promet la création de 50 postes de professeurs sur 5 ans.
Cette année, on découvre en décembre que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche rompt fondamentalement l'accord interministériel. Il ne donne pas les postes qu'il avait promis. Il a donné l'année passée, mais cette année, il n'a pas donné. Il y a quelque chose qui nous empêche, si vous voulez, de donner une bonne formation, de pouvoir organiser une bonne formation de tous les points de vue.
Un sentiment répandu dans les écoles d'architecture, alimenté par des chiffres. Elles sont 2 fois moins bien dotées en moyenne que les universités.
Et je précise que les directeurs des écoles d'architecture sont convoqués ce matin au cabinet du ministre de la Culture. Le patron des sports de glace en France ne démissionnera pas, en tout cas pas en l'état. Didier Gayaguet, à qui la ministre Roxana Maracineanu a demandé la démission, Didier Gayaguet, donc le patron de la Fédération des sports de glace, dit attendre le résultat de l'inspection. Il est accusé, je vous le rappelle, d'avoir fermé les yeux sur des agressions sexuelles dénoncées ces derniers jours dans le milieu du patinage artistique français. Ce matin d'ailleurs, plusieurs athlètes français affichent leur soutien envers les patineuses. Ils sont 54 athlètes à signer une tribune pour briser le silence et agir collectivement. Les violences envers les politiques maintenant. À Mayotte, un candidat sans étiquette au municipal a été violemment agressé à la sortie d'une réunion publique avant-hier. Son pronostic vital est engagé, il a été évacué par avion à La Réunion. Des violences physiques et des violences verbales qui se multiplient, Pierre Neveu.
C'était hier matin à Marseille. Martine Vassal, la candidate Les Républicains à la mairie, tenait une réunion publique lorsqu'elle a été violemment prise à partie par un groupe de femmes qui ont proféré des menaces de mort. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, la députée LREM de Seine-et-Marne, Michèle Perron, expliquait elle aussi avoir été menacée et agressée lors d'une cérémonie de vœux.
Il était tout à fait normal avant, mais il a vrillé, comme on dit, parce que c'est un être humain, parce qu'il a eu aussi, comme chacun de nous, des problèmes personnels qui sont venus se rajouter sur l'ambiance sociale française en ce moment.
Chargé d'assurer l'indépendance du grand débat, le politologue Pascal Perrineau a lui aussi constaté un durcissement de la vie politique en France, voire une radicalisation.
Il y a une forme de violence sociale, de violence politique, qui se développe sur un fond de malaise démocratique. Les Français qui considèrent au fond que les pouvoirs, les institutions issues des urnes au fond ne sont plus légitimes, même si ces hommes et ces femmes pour les députés sont encore en plein exercice de leur mandat.
Les élus ont toujours été à la portée d'engueulade, selon les mots du président du Sénat, Gérard Larcher, mais aujourd'hui le risque de dériver grand peut être par l'action des réseaux sociaux qui délégitime l'action publique. Le débat peut être vif, assure le Premier ministre Édouard Philippe, mais la frontière de la menace physique doit être proscrite.
Le Conseil d'État avait émis un doute sérieux sur cette circulaire. 4 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, revient sur l'attribution des nuances politiques aux élections municipales pour mars prochain. Il demandait aux représentants de l'État de n'attribuer de nuances politiques aux candidats que dans les communes d'au moins 9000 habitants. Le seuil d'attribution sera donc finalement fixé à 3500. Il a 38 ans et il célèbre une victoire stupéfiante selon lui. Pete Buttigieg a émergé en tête des caucus démocrates de l'Iowa. Les premiers résultats sont encore partiels aux États-Unis, mais l'ancien maire de South Bend devrait être devant le sénateur Bernie Sanders avec au moins 1,5 point d'avance. Les résultats auraient dû être publiés hier soir, mais un problème informatique les a retardés. De quoi donner le sourire au président républicain Donald Trump qui prononçait lui cette nuit un discours sur l'état de l'Union. Il a notamment vanté son bilan et ses promesses tenues, a-t-il souligné. 490 morts en Chine à cause du coronavirus, plus de 24 000 personnes contaminées. Le bilan s'alourdit encore et les conséquences économiques se font également sentir. Le nouveau coronavirus va ainsi retarder les achats massifs de produits américains prévus par la Chine. Achats notamment agricoles qui étaient prévus dans le cadre de l'accord commercial préliminaire signé à la mi-janvier. En Espagne, à présent, les agriculteurs ont entamé une mobilisation ces derniers jours. Ils dénoncent, comme partout en Europe d'ailleurs, la situation critique que traverse le secteur en ce moment. Aujourd'hui, ils ont appelé un rassemblement à Madrid en fin de matinée devant le ministère espagnol de l'Agriculture. Et la colère monte, Marie-Hélène Ballestero.
L'intérieur de l'Espagne au bord de l'explosion, c'est le titre choisi dimanche dernier par le journaliste Enrique Juliana de La Vanguardia pour décrire l'état d'esprit des agriculteurs espagnols. Ils manifestent depuis plusieurs jours à travers le pays pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Ils dénoncent notamment la chute des prix des produits agricoles à la production. C'est le cas notamment de l'olive, du lait, des fruits et des légumes. Les agriculteurs espagnols critiquent les prix de misère auxquels ils sont contraints de vendre leurs produits aux intermédiaires et à la grande distribution. Les trois principaux syndicats espagnols agricoles, ASAJA, UPA et COAG, réclament une politique des prix digne qui leur permette d'avoir des bénéfices car d'après eux, actuellement la situation est insoutenable pour les agriculteurs et les éleveurs à cause du manque de rentabilité des exploitations. Le secrétaire général de l'UPA, Lorenzo Ramos, dénonce ainsi des ventes à perte avec des consommateurs qui achètent des produits au prix fort, des agriculteurs de plus en plus ruinés, tandis que les intermédiaires et les distributeurs continuent à spéculer et à s'enrichir sur leur dos. C'est pour manifester leur ras-le-bol que les agriculteurs et éleveurs descendent aujourd'hui encore dans la rue. Ils veulent tout simplement vivre dignement de leur travail. Mais au-delà des prix, il y a d'autres sujets d'inquiétude, comme la nouvelle augmentation du salaire minimum en Espagne, les droits de douane punitifs imposés par les États-Unis sur certains produits européens comme l'huile d'olive ou encore les importations agricoles massives extra-communautaires.
C'était Marie-Hélène Ballestero, notre correspondante en Espagne. Revenons en France où le temps s'annonce plus sec ce mercredi, avec encore du vent sur le sud-est et sur la Corse. Il fait ce matin 5 degrés à Strasbourg et à Bordeaux, 6 à Lille, 7 degrés à Paris et Lyon, 12 degrés ce matin à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40 sur France Culture. Et vous vous penchez ce matin, Jacques, sur une étude publiée le 23 janvier dernier par l'INSEE qui est passée inaperçue dans le contexte social mouvementé en ce moment. Cette étude analyse, je cite, les effets d'une variation de transferts socio-fiscaux sur le niveau de vie et les inégalités.
Mais exactement, Clara. En chiffrant le coût cumulé de 3 prestations sociales, le RSA, les allocations familiales et l'APL, l'aide personnalisée au logement, cette étude montre que la somme nécessaire pour améliorer légèrement la vie des plus pauvres pouvait être largement couverte par les rentrées fiscales provenant de l'ISF avant sa suppression. Selon l'INSEE, une hausse de 5% du montant forfaitaire du RSA augmenterait le niveau de vie moyen des 10% les plus modestes de 2,8%. Or, le RSA n'a augmenté que de 1,6% en 2019, ce qui correspond à l'inflation. Et les APL ont été amputées de 5 euros en 2018. La question se pose donc, elle n'est malheureusement pas nouvelle. Les riches s'enrichissent-ils sur le dos des pauvres? C'est le sujet de l'hebdomadaire Le 1. Aujourd'hui, les riches sont-ils trop riches? Comme le rappelle l'édito de Julien Bisson, l'explosion des revenus des plus riches n'est pas le simple produit du hasard ou d'une croissance économique vertueuse. Elle est la conséquence d'une politique fiscale décidée, favorable aux plus fortunés et qui a drastiquement réduit l'imposition du capital au cours des 40 dernières années. Un constat confirmé par l'économiste Gabriel Zucman. Depuis les années 1980, on assiste à un déclin général de la progressivité du système fiscal. Aux États-Unis, les classes moyennes et populaires paient environ 28% de leurs revenus en impôts, avec un tout petit peu de progressivité pour les plus pauvres. Mais avec une exception forte pour les milliardaires qui, depuis la réforme fiscale de Trump, ont un taux d'imposition global d'environ 23%. En somme, un impôt qui deviendrait dégressif pour les plus riches. Le professeur à l'université de Berkeley estime que pour s'attaquer au cœur de l'injustice fiscale, il faut développer des propositions ambitieuses comme celle d'Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, les candidats à l'investiture démocrate, avec un impôt sur la fortune qui ferait contribuer les milliardaires à hauteur de leurs revenus puisque leur fortune croît en moyenne de 8% chaque année. Sanders propose un taux d'imposition sur la fortune de 8% au-delà de 10 milliards de dollars. L'économiste rappelle que nous avons des traités de libre-échange, mais aucune forme de coordination fiscale, et que ces traités pourraient inclure un volet fiscal, et il conclut sur les conséquences de cette situation. Depuis Reagan, les États-Unis ont fait l'expérimentation des avantages donnés aux premiers de cordée. Pour quel résultat ? Une stagnation du revenu moyen des classes populaires, un déclin récent de l'espérance de vie, une explosion du coût de la santé, du logement et de l'éducation et, politiquement, une dérive ploutocratique qui a mené à l'élection de Trump. Le mensuel Alternatives économiques publie un dossier sur les jeunes. Les 18-29 ans sont la catégorie d'âge pour laquelle la progression de la pauvreté a été la plus forte entre 2004 et 2015, constate Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Et en 2017, ils avaient un niveau de vie inférieur de 8% au niveau de vie médian français contre seulement 2% en 2002. En cause notamment le coût du logement. Entre 1984 et 2018, le profit des bailleurs privés a été multiplié par 3. Et cette situation n'est pas propre à la France. Dans un dossier du journal britannique The Guardian, qui analyse les données disponibles pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis, on peut lire que c'est probablement la première fois depuis la révolution industrielle, hors période de guerre ou de catastrophe naturelle, que les revenus des jeunes adultes sont tombés si bas comparé au reste de la société. Cette paupérisation croissante, les enseignants la constatent à l'université, comme le montre l'enquête de Soazic Lenevé dans Le Monde. À Lille, l'une des plus grosses facs de France, accueille 38% de boursiers sur critères sociaux, un chiffre qui correspond à la moyenne nationale, mais ce taux frise les 50% sur le campus Pont-de-Bois, Outre les aides du CROUS, cette année, 403 étudiants sont éligibles à une aide spéciale de l'université contre 222 en 2018, soit 81% de plus. Dans un ouvrage publié chez Payot sous le titre « Où va l'argent des pauvres ?», Denis Colombi évoque le business de la pauvreté et montre à travers de nombreux exemples, logement, consommation, crédit bancaire, comment les pauvres paient plus cher que les autres. Il rappelle l'indémodable définition de l'exploitation par Karl Marx. Le travail seul étant créateur de valeur, la rémunération de la propriété du capital ne peut se faire que par une extorsion de la plus-value sur le dos des travailleurs, lesquels sont rémunérés juste assez pour pouvoir reproduire leur force de travail. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Au sommaire aujourd'hui, la crise sanitaire du coronavirus en Chine qui vire à la crise politique.
Oui, l'épidémie finalement reconnue comme pandémie, alors une fois par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, mais c'était peut-être une coquille, est d'abord une crise sanitaire. Elle est aussi, et peut-être l'est-elle surtout pour Pékin, une crise diplomatique et politique. Si le gouvernement chinois a dit pendant des jours maîtriser la situation et n'avoir surtout besoin de personne pour lui venir en aide, il a admis hier des insuffisances dans sa gestion de la crise qui a fait, à l'heure qu'il est, 460 morts dans le pays, un premier décès hier à Hong Kong. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, maître de conférence à Sciences Po. Le gouvernement chinois qui finit par admettre des insuffisances, pourquoi d'après vous a-t-il estimé hier qu'il était temps de le faire ?
Alors c'est une gestion de crise particulière à Pékin puisque on navigue à vue. C'est-à-dire que tous les 2-3 jours, il y a une évolution, une adaptation de la communication du régime à Pékin. Reconnaître des erreurs, aujourd'hui, c'est fondamental puisque, évidemment, l'épidémie continue de se propager en Chine. On a aujourd'hui l'ensemble des provinces chinoises, y compris le Tibet ou le Xinjiang, qui sont concernées. Ce sont des centaines d'hôpitaux qui doivent s'occuper de plusieurs dizaines de milliers de cas déclarés de coronavirus. Donc l'objectif pour les autorités chinoises et notamment le parti, c'est de reconnaître évidemment que tout n'a pas été parfait, mais également de rejeter la faute sur les autorités locales, notamment les autorités à Wuhan et dans le Hubei. Et ça, ça a commencé il y a déjà plusieurs jours.
Le plus évident, évidemment, c'était de s'en prendre à Wuhan. Donc il n'y a aucune expression de quelle solidarité que ce soit de la part du gouvernement, de toutes les régions de Chine, envers cette région particulièrement touchée.
Alors il y a une solidarité qui est très importante. L'objectif, il est de montrer que dans ce que j'appelle un état de guerre sanitaire, l'ensemble du pays est mobilisé, l'ensemble des acteurs chinois sont mobilisés, que ce soit évidemment le parti, le Conseil d'État, l'équivalent du gouvernement, mais aussi l'armée, pour venir en aide à Wuhan. Ça, c'est quelque chose qui est très largement médiatisé ces deux dernières semaines en Chine, mais tout en reconnaissant que les autorités de Wuhan ont peut-être, dans les premières semaines, mal géré la crise. Évidemment, la réalité, elle est un peu différente, puisqu'on a appris ces derniers jours que le maire de Wuhan, et notamment le secrétaire général du parti de la ville de Wuhan, souhaitait prévenir la population bien avant, mais il n'avait pas reçu l'autorisation de Pékin. Deuxièmement, plusieurs médecins, et ça c'est très important, avaient dès la fin du mois de décembre essayé de sensibiliser la population sur un virus émergent qu'il n'arrivait pas pour à l'époque, fin décembre, à identifier. Ces médecins, notamment 8 médecins, avaient été écartés, censurés et inquiétés par la police qui leur avait demandé de se taire. Et l'ensemble de ces erreurs, entre guillemets, initiales, a ralenti la réponse des autorités chinoises et a contribué, de fait, à propager l'épidémie tout à travers le pays et évidemment aussi à travers le monde.
Aujourd'hui, les 8 médecins en question sont plutôt, alors ils ont été libérés puis ils sont plutôt considérés comme des héros. Aujourd'hui, ils sont mis en avant en tout cas. Le maire de Wuhan, lui, il a quand même autorisé une sorte de buffet géant de 40 000 personnes le 18 janvier, alors que ça faisait plus de 15 jours que l'annonce avait, l'alerte avait été donnée. Pourquoi ? C'est-à-dire est-ce que c'est une grosse erreur de sa part, comme le dit aujourd'hui le gouvernement chinois, ou est-ce que tout simplement il n'a pas osé annuler cet événement. Enfin, c'est quand même très surprenant, ce buffet de 40 000 personnes.
Alors c'est très difficile aujourd'hui d'analyser ces erreurs en termes de communication, puisque ce sont très clairement des grosses erreurs, tant en termes de communication que des erreurs purement politiques. La navigation, encore une fois, la communication navigue à vue. En Chine ces derniers jours, on alterne entre moments d'excuses, moments d'affirmation de la responsabilité et de la puissance des autorités centrales. Du côté de Xi Jinping, on a à peu près la même chose, hein, puisque Xi Jinping, dès le 20 janvier, s'était exprimé publiquement pour demander à ce que les cadres locaux révèlent les cas. C'était assez paradoxal, puisqu'encore une fois, c'était Pékin qui, dans les semaines auparavant, avait empêché les cadres locaux de s'exprimer. Ça, c'était une référence directe au SRAS, en réalité, et à 2003. À l'époque, Pékin avait été très lourdement critiqué pour avoir caché la réalité. Les victimes politiques de l'époque avaient été le ministre de la Santé et le maire de Pékin. Puis Xi Jinping a disparu pendant quelques jours, notamment la veille du Nouvel An, avec cette une du quotidien du peuple, le principal journal en Chine, qui ne mentionnait même pas l'épidémie à Wuhan, mais mentionnait un merveilleux discours, entre guillemets, de Xi Jinping. Et puis le retour de Xi Jinping, un samedi, de mémoire, je crois, le 26 janvier, dans lequel il annonce que l'ensemble du parti est mobilisé, il annonce la création d'un groupe de coordination au plus haut niveau, présidé par Li Keqiang, le numéro 2 du parti, afin de prendre en charge et de lutter contre cette épidémie.
De prendre en charge ou être aussi un fusible au cas où ça se passerait mal?
Évidemment, les deux. Alors, ce groupe de coordination au plus haut niveau est extrêmement intéressant pour au moins deux raisons. La première, c'est que Li Keqiang est donc numéro 2 du parti. La personne qui gère ce groupe de coordination est de bien plus haut niveau et de bien plus forte autorité que la personne qui le présidait en 2003 pendant le SRAS. À l'époque, c'était la seconde vice-premier ministre qui était ensuite devenue la ministre de la Santé. Là, on a directement le numéro 2. Mais évidemment, ce n'est pas le numéro 1, ce qui permet à Xi Jinping officiellement de donner les ordres, mais de ne pas s'exposer si la gestion de crise empirait. Et ça va être le défi dans les jours et les semaines à venir pour Pékin, puisque la crise sanitaire va se poursuivre, la crise économique qui a déjà commencé va se renforcer, et donc il faut à tout prix éviter une crise politique, et pour cela, il y a plusieurs moyens. Rejeter la faute sur des subalternes jusque sur le numéro 2 du parti, mais aussi chercher à divertir l'opinion publique chinoise, notamment par exemple en critiquant des pays étrangers qui seraient, entre guillemets, responsables ou qui ne faciliteraient pas, excusez-moi, la gestion de cette épidémie.
Ceci dit, c'est vrai que, alors c'est pas un pays étranger, loin de là, en tout cas pour Pékin, mais Hong Kong a fermé sa frontière, enfin, les autorités sanitaires ou plutôt le personnel médical s'est mis en grève pour dire on veut fermer la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale. C'est pas aussi un échec de la guerre de communication de la Chine, ça, de Pékin. Alors, c'est-à-dire que la solidarité qui avait eu lieu pendant le SRAS et d'autres crises sanitaires, là, c'est terminé, quoi.
Il y a plusieurs aspects qui montrent que, évidemment, en Chine, les institutions et les personnes sont divisées sur la gestion de cette crise. Alors, le cas de Hong Kong est très particulier, puisque Hong Kong, il faut le rappeler, a été vraiment traumatisé par le SRAS de 2003, qui venait également du continent, puisqu'il venait de la ville de Foshan, non loin de Hong Kong. C'est aussi par exemple le cas de Taïwan. Taïwan est considéré par la Chine, par Pékin, comme une province chinoise et donc par exemple n'autorise pas Taipei à rapatrier ses ressortissants coincés aujourd'hui à Wuhan. Et puis plus largement, on voit en Chine au niveau ultra-local des gestes qui ne sont pas des gestes de solidarité, qui sont des gestes d'inquiétude, qui sont même des gestes de rejet vis-à-vis des gens qui viennent de Wuhan. On a ces villages entre guillemets qui se ferment, on a ces voitures immatriculées de la province du Hubei qui sont rejetées dans les petites villes. Et ça, c'est un test très important en Chine, puisqu'au-delà de la communication très réussie de, entre guillemets, la Chine est unie dans cette guerre sanitaire, à travers notamment la mise en avant, par exemple, de la construction de ces hôpitaux de campagne.
Alors, ça, c'est une mise en scène.
C'est évidemment extrêmement impressionnant. C'est une mise en scène très importante, puisque ça rappelle
six jours,
ce qui s'était passé. Effectivement, en 2003, il y avait eu dans le nord de Pékin un hôpital qui avait été construit. Il est d'ailleurs en cours de reconstruction ces jours-ci. Ça, c'est très important.
Parce qu'il avait été détruit entre-temps.
Il avait été, une partie avait été démantelée, notamment vers 2010, même si, encore une fois, l'hôpital n'avait été utilisé que quelques semaines en 2003. Les hôpitaux qui sont construits sont très importants. Ils permettent de montrer, de mettre en scène la mobilisation du pays, de montrer les formidables capacités des autorités chinoises. Mais cela ne permet pas forcément de rassurer la population, puisqu'on a par exemple appris ces dernières heures que de nombreux hôtels à Wuhan étaient désormais réquisitionnés pour pouvoir héberger des malades.
Vous avez évoqué Taïwan, Antoine Bondaz, Taïwan qui n'est toujours pas reconnu comme tel par la Chine, qui ne fait toujours pas partie de l'Organisation mondiale de la santé et à qui finalement la Chine a fermé ses portes alors que Taïwan dispose de médecins très compétents, d'un système de santé très très bon. Il était question en Chine de réformer le système de santé depuis l'épidémie du SRAS. Qu'est-ce que ça a donné? On entend plutôt parler d'hôpitaux engorgés avec beaucoup de violence aussi dans les hôpitaux, avec un problème de confiance, de lien de confiance entre les médecins et leurs patients.
Alors la question de la participation de Taïwan à l'OMS est très importante, non seulement pour les Taïwanais, mais aussi évidemment pour l'ensemble des étrangers qui résident à Taïwan. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, puisque aujourd'hui, les Français, les Européens qui résident à Taïwan sont de fait moins protégés que dans d'autres pays qui feraient partie de l'OMS. Sur le système de santé chinois, il y a eu une modernisation, il faut le reconnaître, considérable, en plus de 15 ans du système de santé chinois. Les budgets ont explosé. On a eu notamment dans tout ce qui va être la virologie, l'infectiologie, de nombreuses avancées, y compris en termes de coopération internationale. La France, d'ailleurs, a une coopération sanitaire très importante avec la Chine.
Des accords qui ont été, l'Institut Pasteur est à Wuhan,
exactement, notamment signé en 2004. Alors l'Institut Pasteur de Shanghai, l'Institut de virologie à Wuhan. Donc ça, c'est très très important. La Chine n'est pas dans la même situation qu'en 2003, mais la crise aujourd'hui sanitaire est beaucoup plus grave qu'en 2003.
Merci beaucoup Antoine Bondaz d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et maître de conférence à Sciences Po. Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
En 2019, 124 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Des hommes violents, une série exceptionnelle en podcast original sur franceculture.fr. Immersion au sein d'un groupe de parole constitué de 12 hommes violents condamnés par la justice à y participer.
C'est la femme des fois qui cherche, hein. Faut pas croire.
Déni, récits, témoignages, tous viennent d'univers différents. Qui sont-ils ? Des hommes violents, un podcast original des pieds sur terre en 6 épisodes, disponible dès aujourd'hui sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Tous les jours à midi, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table.
Connu pour ses portraits d'hommes d'État et ses documentaires historiques, de mai 68 au mur de Berlin, Patrick Rothman s'empare cette fois de la mémoire oubliée des goulags dans une première histoire totale et globale diffusée très bientôt sur Arte. Tandis que le romancier Yegor Gran nous raconte l'histoire particulière d'un père pris dans les tourments de la Russie post-Staline.
La grande table ce mercredi à midi et sur franceculture.fr.
Il est 6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Alors rien à voir avec les autorités chinoises qui reconnaissent des insuffisances dans la gestion de la crise du coronavirus, mais vous dites ce matin Guillaume que l'erreur est enfin à l'honneur.
Et oui, c'est ce que dit l'ensemble de la presse suite au refus de la majorité présidentielle de porter de 5 à 12 jours le congé pour un parent ayant perdu son enfant mineur. Tous les journaux ce matin, de la droite à la gauche, évoquent une attaque de boulettes géantes dans Libération. Et maintenant, on fait quoi, que ça c'est en une du Canard Enchaîné ou bien de manière moins imagée mais tout aussi critique finalement dans le Figaro, le fossé se creuse entre l'exécutif et sa majorité. Alors il faut dire que cette décision de refuser de porter de 5 à 12 jours le congé de deuil à tout d'un superfell, autrement dit d'une erreur majuscule à telle enseigne qu'elle sera probablement étudiée dans les laboratoires d'errorologie. Toutefois, pour avoir étudié et pratiqué l'erreur depuis quelques années déjà, je tiens à m'élever en faux contre une interprétation. Car la plupart des analyses de cette erreur insistent sur le fait que ces députés qui ont refusé donc de voter cette extension sont des professionnels de l'amateurisme ou bien encore, comme le rapporte Libération, un ténor de la Macronie aurait traité ces députés Les Républiques En Marche de cons. Oui mais voilà, l'explication par la connerie n'en est pas une. Ce que m'a appris ma fréquentation de l'erreur, c'est que l'intelligence individuelle ou son absence n'expliquera jamais la bêtise collective laquelle peut permettre de construire une gare qui ne sert à rien, de tirer sur un avion civil ou de voter sur une proposition de loi frappée au coin du bon sens. En réalité, cette proposition de loi a été retoquée au nom d'une figure bien connue, Julie, une figure bien connue des eurorologues, la pente glissante. Alors qu'a dit la députée La République En Marche qui s'est illustrée en refusant cette extension ? Eh bien, elle a dit, en substance, pourquoi passer de 5 à 12 jours? Pourquoi 12 jours et pas 20 ou 40? Voilà la quintessence de ce superfell, la pente glissante, dit que si l'on dépasse ces bornes, il n'y aura plus de limite. Et c'est ainsi qu'un gouvernement peut se retrouver avec une patate chaude, comme par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi laisser les zadistes s'installer si on les laisse? Il y en aura même sous la tour Eiffel. Voler un œuf, c'est comme voler un bœuf. Et c'est ainsi qu'on finit par licencier un employé pour avoir volé un crayon. Pourquoi 12 jours et pas 40, et c'est ainsi qu'on participe collectivement à produire un magnifique superfell.